Bonne année avec Sounou Assurance, qui a le profil pour vous accompagner pendant ces 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Suivez Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de portraits dans Priorité Santé. Ces portraits que l'on retrouve tout au long de cette semaine, des entretiens avec des femmes, avec des hommes médecins, praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels pour le bien-être du plus grand nombre. Bonjour Toby Nathan.
Bonjour.
Alors votre nom est familier aux auditeurs de Priorité Santé, des auditeurs qui appellent pour parler de leurs rêves, pour échanger avec vous. Toby Nathan, vous êtes ethnopsychiatre, professeur émérite, romancier. Je vais vous énumérer une série de verbes pour que vous fassiez votre choix. Parler, écouter, comprendre, écrire. Qu'est-ce qui aujourd'hui est essentiel dans votre vie?
Tout. Parler, écouter, comprendre, écrire, tout ça c'est essentiel, c'est ce que je fais tout le temps.
Est-ce que vous rajouteriez autre chose?
Dormir.
C'est pas mal aussi, manger, c'est bien.
Non, dormir pour rêver, parce que rêver c'est essentiel. Et plus j'avance, en âge je veux dire, plus j'avance et plus je me rends compte que les rêves sont plus présents. Mais je pense que ça change la façon de rêver en vieillissant. Et que là, je me suis par mes rêves, c'est-à-dire que je m'endors, je rêve, je me réveille, je me rappelle mon rêve, je me rendors, je rêve, et ainsi de suite. Donc j'ai plein d'informations sur moi et sur le monde.
On aura l'occasion de reparler de ces fameux rêves tout à l'heure. On va revenir avec vous sur votre parcours, certaines des rencontres déterminantes dans votre formation, votre pratique, votre approche du soin aux cibles. Et on va, si vous le voulez bien, s'arrêter sur ce terme de soin pour essayer de définir votre pratique assez particulière, sans parler de méthode, de recette bien sûr. Comment est-ce que vous avez, au cours de votre vie professionnelle, envisager la guérison?
Vous avez utilisé deux mots. Vous avez dit soigner et guérir. C'est deux choses différentes. Ce qui m'intéresse, en effet, c'est guérir. Mais guérir, c'est le but. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que je cherche à atteindre. Et de ce point de vue, j'ai regardé les systèmes de guérison tels qu'ils existent ailleurs. Et je me suis rendu compte que dans des endroits éloignés de quoi d'ailleurs, parce que plus rien n'est éloigné aujourd'hui, mais éloignés des académies, je dirais. Et il existe des façons de guérir qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de penser et qui méritent qu'on les regarde avec attention et qu'on leur accorde autant d'attention que les méthodes savantes de guérir.
Alors aujourd'hui, peut-être particulièrement sur RFI, c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on admet, voire même qu'on encourage. Est-ce qu'au début, quand vous avez commencé justement à regarder au loin pour apprendre avec
toutes ces choses,
comment c'était perçu?
Pas bien. Pas bien. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. J'ai étudié ça auprès d'un maître qui s'appelait Georges Devreux et qui enseignait cette discipline, l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire que les peuples, ceux qui n'ont pas d'académie, de discours savants, ont quand même des savoirs, des véritables savoirs. Et que ça vaut le coup de les examiner, de les comprendre et de les apprendre aussi. Parce que peut-être qu'on apprend des choses par là. Et c'est auprès de lui que j'ai appris ça. Mais bon, donc c'est pas sorti de ma tête comme ça. Hein. Mais en même temps, en France, surtout en France, hein, parce qu'en France, quand même, il y a eu un combat assez violent, de la médecine
académique
contre les guérisseurs en France. Hein. Et ça date depuis la Troisième République, hein, depuis c'est la fin du 19e et tout le début du 20e, c'est tous ces procès qu'on a fait pour exercice illégal de la médecine, etc. Donc c'était pas l'ambiance propice tout à fait à ce genre de choses. Et c'est un peu à l'intérieur de cet espace que j'ai commencé à développer une pratique particulière. Mais moi, j'ai fait mes classes à l'université, j'ai fait tout ce qu'il faut. Hein, je veux dire, je suis pas un guérisseur. Hein.
Oui, vous avez un bon petit CV. Alors, on va avoir l'occasion de citer au cours de cette émission ce qu'on peut considérer comme un peu votre autobiographie, Toby Nathan. Ce livre, il s'appelle l'Ethnoroman. Ethnoroman, même racine, hein, justement, que cette discipline que vous avez citée, l'ethnopsychiatrie. Justement, comment la définir précisément? Est-ce que c'est un domaine de recherche? Est-ce que c'est une démarche clinique ou simplement une discipline?
Bon, quand je l'ai apprise auprès d'un maître, et elle existait du point de vue académique. Elle était enseignée. Devreux, c'était pour ne pas le nommer. En fait, on va le nommer, on va en parler peut-être.
On va en parler, tout à fait.
Alors Devreux,
même plus, vous allez voir.
Avait une chaire d'ethnopsychiatrie. Donc ça s'appelait ethnopsychiatrie. Mais ça a disparu avec lui. Hein. L'ethnopsychiatrie n'est plus enseignée aujourd'hui, du tout.
Mais vous avez écrit le divan et le gris-gris, parce que on a ces deux racines, ethnopsychiatrie, divan, gris-gris. Est-ce que c'est un petit peu la description par l'objet de cette discipline?
Ouais, moi je m'intéresse plus au gris-gris qu'au divan, mais bon.
Ça peut servir aussi.
Oui, ça peut servir aussi, exactement.
En tout cas, Toby Nathan, pour beaucoup aujourd'hui, vous incarnez encore cette discipline. Vous dites elle n'est plus enseignée, mais on va voir aussi que vous avez d'autres cordes à votre arc. On est dans Priorité Santé. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai fait des études, mais vous n'avez pas fait d'études de médecine.
Non.
Vous n'avez jamais eu l'aspiration, justement, à rentrer dans cette académie de la guérison?
C'est-à-dire, c'était parcours, hein. Quand j'ai commencé mon parcours, moi, je voulais devenir psychanalyste. Et donc, la voie la plus rapide pour devenir psychanalyste, c'était la psychologie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des études d'anthropologie et de psychologie. Et donc, c'est par là que je me suis dirigé vers la psychanalyse. Et d'ailleurs, j'ai fait ma formation de psychanalyste à la Société psychanalytique de Paris. Donc, j'ai fait une démarche qui était une démarche tout à fait acceptable pour devenir psychanalyste. Maintenant, médecine... C'est une autre démarche. Et c'est pas ce qui m'attirait. C'était pas vers là que je voulais aller. Donc, je n'ai pas fait d'études de médecine.
Sans regret, une voix plurielle, vous disiez la psychanalyse, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un regard assez critique, sur certains pans de la psychanalyse, certains maîtres, y compris le plus célèbre d'entre eux. Monsieur Freud.
Ah oui. Non, mais parce que la psychanalyse, c'était, au départ, il y avait l'idée que on allait comprendre des choses que jusqu'alors on ne comprenait pas bien. Et vous savez, quand on lit les premiers textes de psychanalyse, on a des sortes d'éblouissements. On dit « Ah, ça y est, on comprend tout ». Puis on se dit « Mais c'est le premier niveau ». Puis on rentre dedans, puis on se rend compte qu'il n'y a pas de deuxième niveau. Et c'est là où on est extrêmement déçu. C'est-à-dire que il y a des sortes de découverte, de déclic comme ça, c'est vrai, ça existe, la psychanalyse m'a donné ces déclics-là, et après, quand on veut approfondir, il n'y a pas d'approfondissement, et c'est très gênant pour quelqu'un qui veut continuer à rechercher. À ce moment-là, il faut aller voir ailleurs.
Et ailleurs, c'est peut-être ce que vous avez fait en 1969, non? Quand vous avez poussé la porte de l'école pratique des hautes études à Paris.
C'est ça.
Vous avez cité son nom, hein, Georges Devreux. Il tient alors un séminaire. C'est quoi exactement pour vous cette rencontre? Est-ce que c'est un coup de foudre?
C'est un coup de foudre, oui. C'est un coup de foudre, c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de foudre au sens amoureux du terme, sans doute, puisqu'il y a eu beaucoup d'affection entre nous, réciproque d'ailleurs. Mais c'est aussi un coup de foudre au sens où c'était assez violent quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il m'a pris là, il m'a dit « Écoute, il faut t'y mettre, hein, si tu veux obtenir quelque chose, faut commencer à travailler vraiment ». Je pense que c'est avec lui que j'ai véritablement commencé à étudier. Et c'est là où j'ai compris que étudier, c'est pas faire ce qu'on vous dit. C'est autre chose. C'est être pris par quelque chose d'intérieur, quoi. Il a su déclencher ce mécanisme à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je dis, c'est pas mon professeur de vous, c'est mon maître. Un maître, c'est quelqu'un qui vous prend à l'intérieur des tripes et qui vous modifie, quoi. Cela dit, je trouve que ce qu'il m'a enseigné, je suis pas toujours d'accord.
Avec vous-même ou avec lui?
Avec lui, je suis jamais d'accord avec moi-même. Avec lui, parfois, je suis pas d'accord. Mais c'est pas ça l'important. C'est qu'il m'a trituré, il m'a complètement modifié. Après l'avoir rencontré, j'étais différent de ce que j'étais avant.
Justement, dans son enseignement, Toby Nathan, qu'est-ce qu'il avait que les autres n'avaient pas?
Rien de spécial.
Rien de spécial?
Non, rien de spécial, sinon qu'il était... Il était. C'est-à-dire que c'était pas du contenu seulement, c'était de l'être. C'est-à-dire que c'était pas seulement quelqu'un qui venait vous délivrer des informations, c'est quelqu'un qui venait et qui se présentait à vous et qui montrait comment une pensée, une recherche, elle s'incarnait dans une personne. Donc vous regardiez la personne et vous disiez, comment est-ce que ça peut s'incarner en moi aussi, quoi? Et ça, ce mécanisme-là, c'est le mécanisme du rapport entre un maître et son disciple, en fait. Hein.
C'est quelque chose de très mystérieux. Et au bout de combien de temps, justement, le disciple, donc vous-même, Toby Nathan, vous avez vos premières consultations, vous recevez vos premiers patients?
Ça prend un certain temps, quand même. C'est-à-dire que, d'abord, je me suis inscrit en thèse avec lui, en thèse de doctorat. Donc une thèse de doctorat, ça met un certain temps à se faire. Moi, j'ai mis 5 ans à faire la mienne, ou 4 ans et demi, un truc comme ça, pour faire la mienne. Ce qui était pas très long à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je crois que il faut que ça mature un certain temps. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, après, pour prendre un patient, il faut déjà être encadré, c'est-à-dire accepter que quelqu'un vous guide, quoi. On saute pas dans le grand bain comme ça. Donc, moi, je suivais une formation à l'Institut de psychanalyse où on vous disait, tu prends un patient sous supervision, une fois que tu as terminé, t'en prends un second, etc. C'est comme ça qu'on faisait. Et donc, c'est à peu près au moment où j'ai eu mon doctorat que j'ai commencé, oui.
Alors, on va entendre à cette voix cet accent très spécial du fondateur de l'ethnopsychiatrie, Georges Devreux, disparu en 1985. Dans votre livre, vous décrivez un accent un peu américain, un peu allemand et en réalité hongrois.
Dans certaines sociétés, certaines formes de maladies sont particulièrement communes, ont toute une mythologie, un folklore qui les entoure, parfois un rituel. Pour ne prendre qu'un exemple tout à fait frappant. Aux Philippines, si un homme veut courir la moque, il va d'abord et demande permission à ses parents. Et il y a tout un art de s'habiller, de se préparer pour cet acte. Le rôle, le prestige de cette folie dans le monde malais démontré de façon frappante par l'épopée nationale malaise de Hikada Tangtua, où toutes les grandes scènes, tous les sommets de l'action, c'est toujours un affrontement du héros avec des coureurs d'amok.
Alors, ce document d'archives pour entendre la voix de Georges Devreux, qui évoque dans cet échange l'amok aux Philippines, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est, Toby Nathan?
L'amok, c'est un mot arabe, en fait, hein, qui veut dire fou, en fait. Et fou, quoi. Au sens un peu savant du terme. Parce que c'est pas un mot qu'on utilise dans la langue courante en arabe. Hein. C'est amok, en fait. Hein. Et ça veut dire fou au sens psychiatrique du terme. Et c'est des coureurs d'amok, c'est-à-dire sont des hommes assez jeunes en général qui, à la suite d'une humiliation, par exemple, se mettent devant leur sabre à forme de serpent qu'on appelle des kris. Ils se mettent à contempler le kris et ils rentrent en transe en fait en regardant le kris. Et puis à un moment donné, ils s'emparent de ce glaive, ils sortent dans la rue et ils tuent toutes les personnes qu'ils rencontrent. Quelles que soient ces personnes, c'est-à-dire c'est pas des gens avec qui ils ont des problèmes, c'est des passants. Ils tuent les passants, ils tuent les animaux, ils tuent tout le monde, jusqu'à ce que quelqu'un les arrête en les tuant en fait.
Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il y a un mode opératoire traditionnel d'expression de la folie meurtrière.
Alors oui, c'est ça, et c'est limité à une sphère géographique très particulière. C'est décrit depuis très très longtemps. Hein. C'est décrit depuis le début du 19e siècle. On a déjà des descriptions des coureurs d'amok. Et Devreux cite Hikayat Hangtua. Il le prononce à toute vitesse, on l'entend pas bien dans votre document. Hikayat, ça veut dire les histoires de Hangtua. Hangtua, c'est un héros, un des héros qui ont fondé la Malaisie, en fait. Et ce héros-là, eh bien, il est pris par la moque et il court à la moque lui-même. Et pendant longtemps, j'ai pris ça pour argent comptant, si vous voulez, puisque Devreux me l'avait enseigné, puis j'ai lu, jusqu'au jour où j'ai rencontré des coureurs d'amok, et où j'ai dû les soigner, justement. Et en particulier, une coureuse d'amok en France. Et là, j'ai été étonné, parce que c'est pas du tout ce que racontait mon maître.
C'est quoi la version que vous avez, traitée, on va dire?
C'est-à-dire que c'est bien ce qu'il décrit sur le plan phénoménologique, c'est-à-dire c'est bien quelqu'un qui tout d'un coup est emparé d'une sorte de furie meurtrière, mais en fait quand vous parlez avec cette personne, parce que cette personne s'est calmée et puis on a pu discuter, quand vous parlez avec cette personne, elle vous raconte que c'est pas elle, c'est le sabre qui s'empare d'elle, c'est pas elle qui s'empare du sabre, c'est le sabre qui s'empare d'elle, parce que ce sont des sabres qui sont sacrés, qui sont des sortes de fétiches, en fait, ces sabres, et qui doivent être honorés. On dit ils doivent être cirés, donc on les cire, on leur fait des prières. Si pendant un long moment, on ne s'est pas occupé du sabre, alors le sabre va s'occuper de vous. Donc c'est comme ça que...
C'est une négligence tragique.
Ouais, c'est comme ça que les coureurs d'amok eux-mêmes racontent l'histoire. C'est pour ça que je dis, il faut aller voir de près, il ne faut peut-être pas s'en tenir à ce qu'on raconte dans les textes.
Alors Georges Devreux, vous le rencontrez, c'est l'évidence, c'est le coup de foudre. Et la séparation, Toby Nathan, vous le racontez dans votre livre, c'est très brutal, cette séparation,
ouais,
très subie.
Mais il était comme ça, hein. Il était comme ça. Je pense que je suis celui qui a tenu le plus longtemps. Mmh. Il a eu d'autres disciples, et ça s'est toujours terminé de la même manière. C'est-à-dire que d'abord il les adore, ensuite il les encense, et puis à un moment donné il les jette, quoi. Et donc il a fait ça avec moi aussi. Mais moi j'ai tenu 10 ans. 10 ans, c'était bien quand même, hein. Je n'ai aucune responsabilité dans cette affaire. C'est pour ça que je suis assez tranquille avec ça. C'est-à-dire qu'un jour, la veille, il me disait, comme d'habitude, combien il avait confiance en moi et qu'il attendait que, etc. Et puis le lendemain, il dit que je suis un traître, que je l'ai lâché, etc. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il savait pas répondre. Et il a dit, tu sais bien ce que tu as fait. À ce moment-là, j'ai dit, mais je connais l'histoire. Et j'ai raccroché le téléphone, c'était au téléphone, c'était 4 ans avant son décès, et après ça, j'ai dit je ne veux plus entendre parler de lui.
Et vous ne l'avez jamais revu?
Je ne l'ai jamais revu, ouais.
Alors aujourd'hui vous êtes professeur émérite, Toby Nathan.
Mais vous savez, c'est moi, je l'ai honoré. C'est-à-dire que le centre que j'ai fondé...
Vous lui avez donné son nom.
S'appelle le centre Georges Devreux, et je ne rate jamais l'occasion de dire qu'il a été mon maître, que c'est lui qui m'a formé.
C'est ce qu'on a entendu depuis le début de cette émission. De toute façon, il n'y a pas la moindre rancune, c'est plutôt l'hommage.
Bah, c'est ça.
Mmh. Alors le passage de relais, pas forcément par cette rupture, en tout cas on va en parler de cette transmission, même si pour vous, l'heure de la retraite n'a pas vraiment sonné.
RFI.
En ligne, on vous retrouve, Catherine Gransard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, maître de conférence à l'Université Paris 8, directrice adjointe du centre Georges Devreux, qui a quitté depuis une dizaine d'années, hein, Saint-Denis pour Paris, c'est bien cela?
Oui, tout à fait.
Alors Catherine Gransard, dans quelles circonstances avez-vous rencontré Toby Nathan?
Alors je l'ai rencontré en cours à l'Université Paris 8, ça devait être aux alentours de 1990. J'étais en troisième année de psychologie.
Toby Nathan, quand il parle de Georges Devreux, il parle de son maître. Est-ce que vous emploieriez le même terme pour parler de lui aujourd'hui?
Oui, je pense. Maître, prof, patron, inspiration aussi.
Comme d'habitude, quand on parle de lui, on parle de beaucoup de choses en même temps. Est-ce qu'il y a une anecdote, un événement dans votre parcours commun qui illustre, selon vous, sa personnalité ou son travail?
Alors, ça fait des années que je travaille avec lui, donc j'ai énormément de souvenirs. Mais je sais que la première fois que j'ai été en cours avec lui, en tant qu'étudiante, j'écoutais son cours, et c'était un cours sur la mythologie grecque à l'époque. Et j'avais déjà lu un ou deux de ses livres, et il fallait absolument que j'aille lui poser une question à la fin du cours. Comme j'étais assez timide, j'osais pas poser des questions en direct. Donc je suis allée le voir pour lui poser une question qui m'était très personnelle. Et la réponse qu'il m'a donnée, finalement, m'a accompagnée depuis.
C'était un bon conseil.
Voilà. C'était plus une ligne de direction, quoi, un point d'horizon à viser, on va dire.
Alors après cette rencontre des études, il y a donc le travail en commun. Est-ce que justement, Catherine Gransard, Toby Nathan, c'est un homme qui aime travailler en équipe?
Ah oui, c'est quelqu'un qui c'est très très agréable de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui est très simple dans la relation et qui est extrêmement généreux intellectuellement et de son temps aussi. Il donne sans compter et il aime beaucoup partager. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour, donc on rigole aussi pas mal. Et donc oui oui, c'est quelqu'un qui aime travailler en équipe sans aucun doute.
Et passer le relais sans regret.
Alors je sais pas, passer le relais, je sais pas si c'est une question de... Alors c'est vrai qu'il m'avait dit ça une fois, il m'a dit toi tu vas prendre la suite ou je sais plus comment, ça m'avait choqué à l'époque. Parce que je me suis dit mais comment c'est pas possible d'imaginer ça. Et bon ensuite il est parti à l'étranger, donc pendant cette période-là il a bien fallu s'occuper du centre de Vreux. Donc il y a une sorte de passage de relais qui s'est fait malgré moi, on va dire. Mais il est revenu, donc non, moi je parle pas tellement de passage de relais, mais de c'est quelqu'un qui sait trouver dans en chacun ce qui le concerne et ce qui l'intéresse. Vous voyez, donc c'est pas passer un relais comme s'il y avait un objet extérieur qu'on passe de l'un à l'autre. C'est plutôt révéler les gens dans leurs compétences et dans ce qu'ils sont, ce en quoi ils peuvent être bons, quoi.
Leur pertinence, plus de 20 ans de cheminement en commun, Catherine Gransard. Alors on l'a entendu, hein, on connaît l'homme volubile, on connaît le travailleur, on connaît le passionné. Je vous regarde, Toby Nathan, vos yeux s'arrondissent derrière vos petites lunettes rondes. Si je vous dis un défaut de Toby Nathan, qu'est-ce que vous me répondez?
Il a les défauts de ses qualités, il a trop de nouvelles idées, parfois on a du mal à le suivre. mais ouais, c'est ça, c'est je dirais son défaut principal, il a trop de nouvelles idées.
Il faut le temps, quoi.
Ouais, enfin bon, c'est un peu une blague, mais c'est-à-dire que parfois moi et en tout cas l'équipe, on se dit mais comment on va pouvoir faire ça, comment c'est possible, mais finalement il a toujours raison, c'est aussi un de ses défauts, c'est qu'il a toujours raison.
Merci beaucoup Catherine Gransard, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Toby Nathan, petit commentaire sur ce qui vient d'être dit?
Non.
Non, bah c'est très bien comme ça aussi. Alors on va continuer à parler de l'ethnopsychiatrie qui continue d'être enseignée au centre Georges de Vreux. Comment ça se passe exactement? C'est plus des consultations? Qu'est-ce qui s'y passe exactement aujourd'hui?
Alors, quand je disais l'ethnopsychiatrie n'est plus enseignée...
C'est pour ça que je vous pose cette question.
Je disais, il n'y a plus de chaire d'ethnopsychiatrie. Moi j'ai enseigné toute ma vie, j'ai enseigné la psychopathologie. La psychologie clinique et la psychopathologie. Et à l'intérieur de mes cours... Il y avait un aspect ethnopsychiatrique, mais j'enseignais pas l'ethnopsychiatrie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chaire d'ethnopsychiatrie. Elle a disparu avec la mort de Devreux, d'ailleurs. Et c'est un peu la faute de l'école des hautes études, hein. Faudrait leur dire. C'est-à-dire que, après, une fois qu'ils ont terminé avec Devreux, la chaire de Devreux, ils ont pas souhaité la poursuivre, cette chaire. Et je trouve que c'est très dommage, parce que l'ethnopsychiatrie, c'est tout de même ouvrir les yeux des psychologues, des psychiatres, des chercheurs en sciences humaines sur les mondes éloignés et de leur dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser le fonctionnement mental, qu'il y a d'autres mondes, d'autres univers, d'autres langues et que ces autres mondes pensent les choses d'une manière différente. C'est au fond, c'est ça l'ethnopsychiatrie.
Et justement, il y a cette difficulté quand on veut vous poser des questions sur ces personnes que vous traitiez, sur le type de troubles que vous preniez en charge. Est-ce que vous leur donniez des noms ou est-ce qu'il fallait à chaque fois aller se renseigner aux racines des personnes que vous aviez en consultation pour savoir quel nom eux leur donnaient? Comment on parlait pas de schizophrénie, on parlait pas de paranoïa, vous parliez de quoi? Non, mais c'est intéressant parce que ce sont des troubles mentaux, ça on peut le dire, ou des maladies, ou je ne sais pas quel nom.
Pas forcément.
Mais en tout cas, comment vous arriviez à dire, là, j'identifie ceci ou cela?
Alors, d'abord, il y a un des principes du fonctionnement de l'ethnopsychiatrie. Ça, c'est moi qui l'ai introduit. Devreux ne m'a pas enseigné ça. Devreux enseignait essentiellement de la théorie, en fait. Il a pratiqué très peu, lui. C'est un chercheur avant tout. Et moi, j'ai été un clinicien avant tout. Et donc, moi, j'ai essayé d'appliquer, au fond, les pensées, les concepts qu'il m'avait communiqués. La première façon de les appliquer, c'était de dire qu'on recevait des patients qui venaient de loin, dans leur langue d'abord, toujours dans leur langue. Alors, quand vous recevez des gens qui viennent, par exemple, d'Afrique subsaharienne, Évidemment, je sais pas, au Congo, il y a 250 langues. Évidemment, vous parlez pas les 250 langues du Congo. Donc, vous recevez quelqu'un de telle région, vous allez chercher quelqu'un qui parle la même langue que lui. Donc, il y a d'abord un travail préliminaire qui est un travail de recherche qui se déroule en amont de la consultation. Et puis ensuite, pendant la consultation, eh bien, oui, on va chercher à dire le désordre de la personne qui vient nous voir dans sa langue et avec les concepts de son monde. Donc on a besoin de lui, mais on a besoin aussi d'experts. Et donc forcément, on n'est pas seul avec le patient. Hein. On est le thérapeute ou les thérapeutes, et puis les experts, et puis la famille du patient, et puis les gens qui se plaignent de ce patient. Et donc souvent on est 10, 15 personnes, mais c'est ça une consultation d'ethnopsychiatrie. C'est un forum. Et pour la première fois en psychiatrie et en psychologie, on introduit le contradictoire. Parce que la psychiatrie, vous savez, telle qu'elle se déroule de manière classique, ressemble beaucoup à l'inquisition, vous voyez ? C'est-à-dire quand vous avez une personne qui interroge une autre, c'est très semblable à un interrogatoire de police, vous voyez ? Non, pardon, je dis...
Vous allez loin, moi je vous regarde avec des gros yeux, mais les auditeurs le voient pas, mais il y a des gros yeux quand même.
Des choses peut-être de manière brutale, mais en tout cas...
Il y a moins de certitude, vous diriez.
Il n'y a pas de possibilité, quand vous êtes seul avec votre psychiatre ou avec votre psychologue, il n'y a pas moyen d'introduire un doute. C'est lui qui pense, et c'est lui...
Pour vous, c'est trop de pouvoir.
Oui, et c'est pas, il n'y a pas de possibilité d'avoir plusieurs pensées, il n'y en a qu'une, quoi. Alors que quand vous êtes une quinzaine de personnes, et qu'il y a des gens qui viennent et qui disent « Oui, mais dans mon pays, on ne dit pas les choses comme ça. Oui, mais dans mon monde, ça ne se raconte pas de cette manière. » Et forcément, il y a des doutes qui s'introduisent, et le déroulement de la séance n'est pas du tout le même, je dirais.
Toby Nathan, vous expliquez, hein, depuis le début de cette émission, on l'a bien entendu, comment l'origine façonne la personne, aussi ses amours, ses croyances, ses pathologies, ses troubles, je ne sais pas quel terme on doit employer. On va remonter à vos origines, vous l'écrivez dans l'ethnoroman « Mes parents venaient d'ailleurs », cette phrase résume beaucoup, cet ailleurs c'était l'Égypte, 1956, les Juifs sont déclarés indésirables sur ce sol d'Égypte, 10 000 d'entre eux, dont votre famille, vont rejoindre la France.
Voici à peine 2 ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au destin des dictateurs ?
Aux Nations Unies, après le cessez-le-feu, le représentant de l'Égypte s'indigne d'un renforcement du dispositif français par un débarquement de blindés. Puérile erreur ou habituelle mauvaise foi. Il s'agissait en réalité du débarquement du détachement yougoslave de la force de l'ONU. Rien n'est trop invraisemblable pour cette propagande à la Goebbels. Mieux encore, nouveau viol de la Déclaration des droits de l'homme. Nasser expulse les Juifs égyptiens. Les voici accueillis à leur arrivée, alors qu'ils ont dû abandonner tous leurs biens en Égypte. Des Français, des Anglais qui avaient travaillé pour la mise en valeur de ce pays, ont été également jetés dehors.
Archives, août 56, janvier 57, le commentaire est d'époque, là, le ton et la tonalité ne trompent pas.
Le commentaire est d'époque.
Ça a un petit peu vieilli. Toby Nathan, vous êtes né en 1948, c'est bien ça, au Caire. Qu'est-ce qu'il vous est resté de cette enfance égyptienne ?
Tout. C'est bizarre d'ailleurs parce que j'ai pas une mémoire faramineuse, mais ça, je me souviens de tout. Je me souviens très très bien de mon enfance au Caire. Je sais pas, ça s'est inscrit, quoi. C'est quelque chose c'est une empreinte.
Votre langue maternelle, c'était quoi?
Je sais pas.
Vous parliez quoi avec votre maman?
Parfois le français, parfois l'arabe. On parlait l'arabe parce que c'était sa propre langue maternelle, la langue maternelle de ma mère et de mon père d'ailleurs. C'était leur langue maternelle, sauf que eux avaient décidé de parler français. Donc ils parlaient français et ils enseignaient le français à leurs enfants. Sauf que, évidemment, la langue qui venait naturellement, c'était l'arabe. Et puis on parlait l'arabe dehors, on parlait l'arabe avec les gens qui venaient nous visiter à la maison, etc. Donc c'était les deux langues, toujours.
Alors on va marquer une pause musicale en écoutant un son que vous avez choisi. On retrouve justement ces liens avec l'Égypte, avec la Simsia de Port Saïd, l'ensemble Altan. Tambura.
Semsemeya.
Oui, c'est toujours mieux prononcé par ceux qui savent.
Semsemeya.
Voilà, c'est beaucoup mieux parce que moi je ne sais pas le dire. Alors en tout cas, vous allez nous dire quelques mots pour expliquer ce choix.
C'est-à-dire c'est la musique du terroir, quoi. C'est des hommes qui se réunissent régulièrement toutes les nuits pour prier, en fait. Hein. C'est des chants religieux, mais c'est des trances, en fait, aussi. Et c'est du soufisme, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'Égypte était totalement soufie à cette époque-là. Hein. Et il en reste quelque chose encore aujourd'hui. Elle était totalement soufie. Et surtout, c'était l'Égypte populaire, les villages. Et dans les villages, il y avait une réunion du village tous les soirs où tout le monde se réunissait pour chanter des musiques soufis.
L'ensemble Altamboura, cette fois-ci, j'espère que je l'ai bien dit. On vous retrouve, Toby Nathan, pour égrener avec vous des moments de votre vie dans Priorité Santé sur RFI.
Égrener, vous avez dit.
On dit égrener.
Non, mais Semsemeya, c'est exactement la signification de Semsemeya.
Ah oui?
C'est égrener. Égrener des notes de musique. Mais exactement le mot.
Le chapelet, l'ethnopsychiatrie, les consultations, l'enseignement. Et vous allez nous parler maintenant, si vous le voulez bien, de vos voyages. Quand vous êtes allé à la rencontre de l'autre, in situ, parce que si vous rencontriez des personnes hors cadre en consultation en région parisienne. Mais justement, qu'est-ce que vous ont apporté ces voyages, Toby Nathan, ces dépaysements dans votre manière de prendre en charge celles et ceux qui souffraient et qui vivaient loin de chez eux? Ça vous a permis de comprendre quoi?
Alors d'abord, je me suis occupé de patients migrants depuis 45 ans. Je n'ai fait que ça. Je me suis occupé que des patients migrants. Et donc, selon les époques, avec les différentes migrations qu'on a connues en France, beaucoup de patients d'Afrique du Nord, ensuite d'Afrique subsaharienne, et puis après de tous les pays du monde, en fait. Hein. En France, on a vu des gens de tous les pays. Et donc, ils m'ont raconté plein de choses sur leur monde, puisque je travaillais toujours dans leur langue, et à partir des principes que je vous ai énoncés tout à l'heure. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à voir des étudiants aussi, qui venaient des mêmes endroits, et qui faisaient des thèses de doctorat, et qui ont commencé à me raconter aussi des choses, parce qu'ils sont allés dans leur monde recueillir les manières de faire et les manières de dire les problèmes du désordre mental, on va dire. Et ça, c'était mes étudiants. Puis au bout d'un moment, les étudiants racontaient des choses, et moi, je me suis dit, il faut que j'aille voir quand même, parce que les étudiants, parfois, ils vous racontent des choses, c'est pas forcément vrai. Donc, on va vérifier quand même. Et donc, c'est essentiellement par les étudiants que je suis parti dans les mondes de mes patients.
Alors là, vous avez observé les guérisseurs, les tradipraticiens, assisté à des cérémonies, multiplié les rencontres. Est-ce que parfois, Toby Nathan, vous aviez un petit peu l'impression d'être dépassé par ce que vous voyez?
Ah oui, il y a des choses que j'ai toujours pas comprises. Hein. Des choses... Par exemple, je me souviens d'un guérisseur au Burkina Faso. Il nous a tiré les cories, il a raconté des choses sur les uns et sur les autres. Puis il disait que de toute façon, c'était pas lui qui faisait quoi que ce soit parce qu'il avait un fétiche. Et le fétiche, il appelait ça un fétiche lui-même parce qu'il parlait français. C'est pas dans sa langue, on dit pas comme ça, bien sûr. Mais c'était quoi le fétiche? C'était un truc, quoi. Un truc, un machin comme ça avec des plumes et c'est une sorte de tas un peu d'un tas de sable avec des plumes par-dessus. On n'arrivait pas à distinguer, c'était dans la pénombre en plus. Puis il disait qu'il a jamais tué un animal. Il prenait l'animal, il le posait sur le fétiche et l'animal mourait absorbé par le fétiche, comme ça. Et pendant tout le temps qu'il parlait, il y avait une poule à ses pieds. Et la poule, elle se tenait au garde à vous. J'ai jamais vu ça, hein, une poule qui se tient au garde à vous comme ça.
À part congelée, non, c'est
ben
rare.
C'est ça. C'est-à-dire, les poules, ça bouge tout le temps. C'est des animaux très angoissés, les poules, en fait. Hein. Elles bougent sans arrêt. Et là, elle était au garde à vous. Au point que je me demandais si elle n'était pas empaillée, quoi, cette poule. Puis au moment où il a dit, bon, c'est terminé, pof, la poule, elle est partie. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Alors, je posais la question, il m'a dit, moi, je fais rien. C'est lui qui fait tout et il m'a montré son fétiche. Bon, ça, c'est des choses, aujourd'hui encore, j'ai pas compris. Je sais pas de quoi il s'agit. Mais c'est resté dans ma tête. C'est une empreinte, c'est resté dans ma tête. Il y a plein de petits événements, c'est des petits événements. Puis des événements que j'ai fini par élucider aussi et qui sont restés longtemps une énigme avant que je comprenne finalement de quoi il s'agissait. Mais c'est vrai que c'est des univers, on rentre pas dedans de plein pied. Et c'est certainement pas en posant des questions qu'on obtient des réponses, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. On vient, on reste, on s'assoit par terre, comme on dit en Afrique, et puis on se tait, puis on regarde. Les choses rentrent par les yeux et pas par les oreilles. C'est comme ça qu'on apprend, c'est par les yeux. Ceux qui apprennent par les oreilles, c'est des choses qui restent jamais dans la tête. Pour que les choses rentrent par les yeux, il faut regarder longtemps, 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 et à un moment, on sait pas pourquoi, c'est dedans. Mais ça ne rentre pas d'emblée, alors que les oreilles, ça rentre tout de suite et ça sort aussitôt.
Alors, vous avez toujours été curieux des autres, vous l'avez dit tout à l'heure, toute votre vie à écouter justement les migrants, leur vie, leurs blessures. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, Toby Nathan, cette Europe, cette Amérique aussi, hein, qui se claque mûre quand on agite la peur? Est-ce que justement, vous essayez de comprendre ce qui se passe dans le monde et là, vous comprenez quoi?
Alors, est-ce qu'il se claque mûre? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont se claquemurer.
Il y a quand même des murs qui ont été érigés, où il y a des projets.
Oui, les murs sont faits pour être...
Abattus,
pour être escaladés aussi, et puis c'est ce qui se passe. Enfin, en fait, il n'y a jamais eu de diminution de l'arrivée des migrants, hein, ni en Amérique, ni en Europe. Il y a des politiques qui disent, on va arrêter les migrants, on va faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, etc. C'est pas vrai, ça ne se passe jamais.
Il y a quand même des paroles qui se libèrent, il y a des choses qui s'entendent qu'on n'entendait pas.
Qu'on entendait.
Il y a une certaine violence qu'on n'entend plus, puis qu'on réentend.
Voilà, c'est ça, voilà. Qu'on entendait, puis qu'on n'entendait plus, puis qu'on réentend à nouveau. Bon, c'est pas tellement la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des étrangers? C'est le statut de l'étranger. Moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est-à-dire que, qu'on les laisse entrer ou qu'on leur interdise d'entrer, quel statut on donne aux étrangers? Et moi, je dis que les étrangers, c'est intéressant parce qu'ils sont étrangers et non pas parce qu'ils sont nos semblables. Bien sûr qu'ils sont nos semblables. Je veux dire, on est tous foutus pareils, hein. Je veux dire, c'est pas la question. Bien sûr que ce sont nos semblables. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est en quoi ils sont différents. C'est qu'est-ce qu'ils nous ramènent qu'on n'est pas? Qu'est-ce qu'ils sont que nous ne sommes pas et qu'on a besoin et envie de connaître?
Quand les autres font peur, vous, c'est ce qui vous attire.
C'est ça.
Oui, ben voilà.
Quoi, c'est pas bien?
Ben si, c'est bien. J'aime bien la différence,
voilà,
aussi.
Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est de s'intéresser à ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est le statut qu'on va donner aux étrangers. Et même des étrangers qui sont là depuis longtemps, je veux dire. Et même des étrangers de seconde génération. Ils sont pas pareils que les autres. Ils ont quelque chose de particulier. Plutôt que de vouloir absolument les rendre identiques, on devrait au contraire les inciter à cultiver cette différence et la mettre en valeur et en faire quelque chose qui est un argument de plus pour leur existence.
Alors, on a parlé de ces consultations, de la transmission, de l'origine aussi. Et je disais tout à l'heure en début d'émission, plusieurs cordes à votre arc. L'une d'entre elles, Toby Nathan, c'est la littérature. Votre dernier roman s'appelle « L'Évangile selon Youri ». Et voici ce qu'en pense le journaliste François Bunel, animateur de l'émission « La Grande Librairie » sur France 5. C'était en septembre 2018.
On vous doit des essais, bien sûr, mais également des romans. Et « L'Évangile selon Youri », qui vient de paraître chez Stock, est un roman. Enfin, ou un conte. Fantastique. À moins que ce ne soit une prophétie. Un peu barrée, mais passionnante. En tout cas, c'est un livre fou dans lequel apparaît un nouveau dieu. Sous les traits d'un enfant, au pouvoir magique. Mais aussi des fous de dieu, qui prennent en otage le président de la République, sans oublier des sorciers, des illuminés. Et au milieu de tout cela, bah, y a un psy, un ex-freudien, un ex-mao, un ethnopsychiatre du futur. Un peu vous, quoi.
C'est un peu vous, tout cela, Tobinathan?
Non, c'est très joliment dit. Et vraiment, je remercie François Bunel de ce commentaire. Je sais pas, on est toujours un peu dans le roman, mais je vais vous dire, là, c'était délibérément pour attirer le lecteur. En fait, c'est une sorte de truc littéraire. Et c'est-à-dire, je me présente comme ethnopsie, ayant des consultations d'ethnopsie. Comme les gens savent un peu ce que je fais, ils se disent immédiatement, ah ben, c'est lui. Et puis après, je commence à mêler des choses qui sont inattendues.
Vous devenez de plus en plus bizarre.
Voilà, c'est ça. Mais c'est une sorte de piège pour attirer le lecteur, et une fois qu'il est pris, d'introduire des choses inattendues, quoi.
Quelle place occupe la littérature dans votre vie, Tobinathan ?
De plus en plus de place. Je suis à la retraite de l'université, donc je n'ai plus les contraintes de l'université, ni les plaisirs de l'université, parce que ça a été quand même mes plus grands plaisirs, l'enseignement. Et donc, ça me laisse du temps. Et donc, je lis beaucoup, beaucoup.
Alors justement, c'est quoi vos romans fétiches ?
D'abord, Isaac Bechwitz-Singer. Pour moi, c'est le maître de la littérature. C'est les fabricants d'histoire. Naguib Mahfouz, ça aussi. C'est les fabricants d'histoire, ceux qui savent construire des histoires à partir de rien. C'est cela que j'aime. Parce que pour moi, le fétiche absolu de la littérature, c'est les contes des mille et une nuits, si vous voulez. Ça, c'est vraiment la littérature, c'est-à-dire celui qui fabrique des histoires qu'on n'avait jamais entendues. C'est ça mon idéal. J'y arrive pas toujours, hein.
Alors, livre de chevet, musique de cœur et d'âme, vous avez choisi Vivaldi, Nisi Dominus, et vous avez demandé, interprété par Teresa Berganza.
Nisi, Nisi Dominus, edifica per domum, edifica per domum. In vano labora me,
Vivaldi, on vous retrouve Tobinathan, volubile. Est-ce que certains disent de vous que vous parlez trop ?
J'ai jamais entendu ça.
Ah bon ?
Non ? Vous avez entendu ?
Non, je ne sais pas, je me pose la question.
Non, 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 mais c'est vrai que peut-être que je parle trop. C'est-à-dire, on a souvent dit des psys que c'est des gens qui savaient écouter. Moi, ce n'est pas ça que je pense du tout. C'est des gens qui savent parler. Et des psys, normalement, un bon psy, c'est quelqu'un qui sait parler, mais qui se retient de parler. Et je trouve que moi, je suis quelqu'un comme ça, je me retiens de parler, en fait.
Parce qu'aussi, vous aimez beaucoup raconter.
Ouais, alors raconter, c'est le top du top, quoi. D'abord, raconter une histoire qu'on connaît déjà, c'est le top. Mais raconter une histoire qu'on connaît pas encore, alors ça, c'est le top
qui,
du top.
Qui monte en nous.
Ouais, c'est ça.
Alors, vous avez écrit des romans, de la fiction, des essais aussi. Et je voudrais qu'on conclue en parlant de ces fameux essais sur les rêves. Le rêve, le matériau de base de la psychanalyse. Là, on revient à vos débuts. Est-ce que ces rêves, justement, ils ont toujours été, Tobinathan, au cœur de votre travail ?
Toujours, ça a toujours été le cas. On doit pouvoir retrouver, il y a une émission de radio qu'on a faite en 1980, avec Georges Deveau, ça remonte à loin quand même, hein, et où nous sommes tous les deux dans cette émission, et nous parlons des rêves. Et lui a une position qui est une position très classique, psychanalytique classique, où il dit, il faut interpréter les rêves, et moi je dis, déjà, à cette époque-là, je dis, non, faut pas interpréter les rêves, faut leur permettre de s'accomplir dans la vie réelle.
Ce sont des tremplins pour vous, ces rêves, hein.
C'est bien sûr, c'est ce qui permet de passer des choses qui sont contenues à la vie réelle. Ce sont des engrenages, en fait, qui relient le monde intérieur avec le monde extérieur. D'ailleurs, on rêve au moment où on se réveille, hein. C'est-à-dire, le rêve annonce le passage dans la vie éveillée. Et donc, c'est comme ça qu'on doit toujours utiliser le rêve à l'interface. Et donc, quand on fait un rêve, il faut donner un conseil, dire comment utiliser ce rêve pour mettre une connexion entre le monde intérieur et la vie éveillée.
Est-ce que pour vous, Toby Nathan, on néglige trop les rêves, trop cette richesse intérieure et cette richesse quotidienne?
Ah bah oui, c'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que c'est, vous avez des idées qui bouillonnent dans votre tête, au moins pendant une heure et demie chaque nuit. Et tout ça, c'est perdu. Et personne ne vous dit qu'il faut les préserver, les conserver, en faire quelque chose. Et quand vous vous y intéressez, on vous regarde avec des yeux tout ronds. Et ça, c'est pour dans le monde de la recherche. Mais quand vous parlez avec des gens dans la vie, tout le monde a des rêves à vous raconter, toujours. Hein. Vous dites que vous vous intéressez aux rêves. Essayez ça à table, dans un dîner, que vous vous intéressez aux rêves. Chacun a un rêve à vous raconter, c'est-à-dire que toutes ces choses qui sont contenues et qui n'ont pas débouché, eh bien, c'est les personnes, les gens sont en attente. On attend de quelqu'un qui va enfin pouvoir leur dire quelque chose sur leur rêve.
Et moi, c'est ma dernière question. Vous, Toby Nathan, vous racontez vos rêves à qui ?
Je les raconte pas beaucoup.
Alors vous gâchez un joli matériau.
Ouais, et je les écris même pas. Mais j'ai une relation très, de plus en plus permanente avec mes rêves. C'est bizarre d'ailleurs. Mais je pense que c'est l'âge, quoi. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure, je m'endors, je rêve, je me réveille à peu près toutes les heures et demie, toutes les deux heures, quoi.
Est-ce que ces rêves, ils vont façonner, justement, les heures du réveil? Est-ce qu'ils vont diriger votre journée à venir?
Bien sûr. Et j'ai de moins en moins de distinction entre ces choses qui se passent dans les rêves et ce qui se passe dans la vie éveillée, en fait.
La vie éveillée, la réalité qui dépasse la fiction?
C'est-à-dire, c'est pas de la fiction, c'est aussi un monde réel. Mais c'est un monde réel qui se dit dans un autre vocabulaire, si vous voulez.
Merci beaucoup, Toby Nathan, d'avoir partagé ce moment avec l'équipe de Priorité Santé, émission préparée par Assé Toussamaké et Ophélie Lassen. Réalisé par Didier Bleu, avec un autre de vos choix musicaux pour nous séparer, Toby Nathan. On se laisse sur les notes d'Ali Farka Touré au carrefour de la musique malienne traditionnelle et du blues avec Safari. Très bonne journée à vous.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sono Assurance, qui vous souhaite 365 jours de santé, de réussite, de joie et d'assurance. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.